Bonjour tout le monde. Si vous voulez vous tourner avec moi dans 1 Pierre 3, on va lire à partir du verset 18. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta mort, pour ta résurrection. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à comprendre ce texte. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire personnellement à chacun, aide-nous à l'entendre, Seigneur, et aide-nous à obéir à ce que nous entendons. Aide-moi, Seigneur, à obéir à ce que tu me dis. Bénis ce temps, Seigneur. Amen. En guise de rappel, alors je ne sais pas ce qui était là la dernière fois que j'ai enseigné dans 1 Pierre, c'était en novembre, je crois, le 1er novembre. J'avais dit que lire tout le livre de 1 Pierre, ça prend à peu près 15 minutes. Et j'avais dit c'est facile et je vous avais mis au défi, un petit peu comme Pierre avec l'idée de faire du bien aux gens. J'avais dit mais essayez peut-être de lire cette épître 4 fois avant la fin de notre étude. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ou qui ont essayé. Peut-être que vous pouvez vous donner ça comme objectif en 2016, une résolution de début d'année, avant qu'on finisse l'étude. Quand vous lisez une épître comme ça de bout en bout, ça aide vraiment à comprendre ce que l'auteur veut nous dire et à remettre les choses dans leur contexte. Donc je vous encourage encore une fois à essayer de le lire, c'est pas des livres qui prennent une heure à lire, 15 minutes, on y arrive. Hein. Voilà, on a parlé quand j'ai enseigné, et Pierre a mentionné aussi que ce livre donc parle de souffrance, parle d'espérance. C'est un peu un livre, c'est Pierre qui nous parle. C'est intéressant de se rappeler Pierre qui marchait au milieu de la tempête sur l'eau en allant vers Jésus et de se dire que peut-être c'est aussi un peu une image de ce que Pierre veut nous communiquer, cette idée que Jésus doit être notre paix, notre objectif, notre ancre au milieu de la tempête. Et dans ce livre, il va, pour communiquer ces choses, il va encourager les croyants auxquels il écrit. Il va rappeler la bonne perspective qui prend en compte Dieu, qui prend en compte la perspective et les réalités éternelles. On va en parler après. Et après, il va donner beaucoup d'instructions pratiques sur comment on doit vivre, et notamment comment on doit vivre même au milieu de la souffrance, de la persécution. Et on a vu la semaine dernière ces idées de dire du bien des gens, d'essayer d'être quelqu'un qui dit du bien, qui parle en bien des gens, qui aime les gens par leurs paroles, par ce qu'ils en disent. Et aussi l'idée qu'on doit faire le bien même si on doit en souffrir. On a fini avec cette idée-là. Le monde, c'est souvent si quelqu'un nous fait du bien, on leur fait du bien. Ou alors si quelqu'un nous fait du mal, on leur fait du mal. Et Pierre avait repris tout ça en disant que la chose difficile et la chose que le Seigneur nous demande et qui va à l'encontre de notre nature humaine, c'est l'idée que Dieu veut que nous fassions le bien quand on nous fait du mal. Et c'est là que notre texte commence. Il dit, verset 17, pour faire le lien, « En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Il dit, la meilleure chose, c'est de faire la volonté de Dieu. Même si ça veut dire souffrir, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il continue avec Christ, l'exemple, notre exemple. Et il dit, « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. » Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il a souffert une fois pour toutes pour nos péchés. C'est fait, c'est fini. Il n'y a plus besoin de sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu. On va voir après que ça n'enlève pas notre désir et notre besoin d'obéir à Dieu, mais le salut ne pèse pas sur nous. Ça ne pèse pas sur nous de nous justifier. On n'a pas le poids de nous dire, il faut que si j'y arrive pas, si je me loupe, il n'y a plus ce poids. On a une paix, on a une grâce. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. C'est cette idée d'enlever ce poids, cette responsabilité qu'on aurait pu avoir, que les Juifs avaient avec la loi. Jésus a souffert. Est-ce que vous pensez, quand vous pensez à Jésus qui souffre, est-ce que vous pensez que il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, les martyrs de l'histoire, ceux qui ont pu être mis à mort pour leur foi, est-ce que vous pensez qu'ils ont souffert comme Jésus? C'est une petite question intéressante à laquelle je m'étais jamais mis face à cette question, cette idée que en fait, nous on a Jésus avec nous, on a l'Esprit Saint qui nous console, qui nous donne de la force. Jésus, lui, il est dit que Dieu a tourné sa face, l'a rejeté en quelque sorte. On l'a chanté, Dieu tourne sa face, tourne le regard. Jésus disait, où es-tu ? Il était tout seul, il a peut-être, au niveau physique, on ne sait pas, c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas au niveau spirituel, il a souffert quelque chose que dont nous n'avons et n'aurons jamais à souffrir si nous le suivons. Alors que nous ne l'aimions pas, il est mort pour nous. C'est des réalités tellement simples et tellement, on va dire, j'ai presque envie de dire galvaudées. En tant que chrétien, on peut entendre ces choses. Si vous venez à l'église de manière régulière, vous entendez ces choses. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Ça nous passe au bout d'un moment au-dessus de la tête et on dit, bon, ok, Jésus m'aime. Mais bon, il y a d'autres choses à comprendre. Il y a d'autres versets, il y a d'autres... Je préfère m'attarder sur les versets un peu bizarres qu'on va voir après, sur ces choses qu'on a du mal à comprendre. Mais ces réalités et la réalité que Jésus nous aime, que lorsque nous ne l'aimions pas, lorsque nous étions complètement contre lui, il est mort pour nous. C'est une réalité qui doit vraiment impacter nos vies, qui doit nous donner de la paix, qui doit nous donner de la joie, qui doit nous donner de l'espérance. Si vous croyez vraiment que Dieu est qui il est, si vous croyez que Jésus, Dieu a créé l'univers, a la puissance de ressusciter les morts, a la puissance de créer tout ce qu'on peut voir, les étoiles, le ciel, les galaxies, nos corps, si vous croyez vraiment ces choses et que en même temps il dit ben, cette personne t'aime, ça doit changer nos vies. Ça doit avoir un impact sur nos vies. Et malheureusement, je pense pour moi que je passe trop de temps à méditer et à penser sur d'autres choses et pas assez de temps à réfléchir sur ces choses. Et c'est pour ça qu'elles ne m'impactent pas souvent comme elles le devraient. Ces réalités simples de l'Évangile. Quand je vous disais, lisez 15 minutes la Bible pour lire l'Épître, là aussi, combien de temps est-ce qu'on passe les statistiques, Pierre en a parlé déjà, les statistiques sont assez effarantes quand on se dit que les Français regardent la télé 5 heures en moyenne, passent 6 heures en moyenne par jour sur Internet, etc., etc. On a le temps, si on peut regarder la télé 5 heures par jour, on a le temps de lire 15 minutes la Bible. Et dans l'étude de la Bible en 24 heures, on a parlé du fait que la Bible nous présente une vision du monde, une conception du monde telle qu'elle est, telle qu'elle marche, telle qu'elle fonctionne pour nous. Et c'est ce qu'on appelle une vision du monde, et une vision du monde doit avoir un impact sur nos vies, doit avoir un impact sur comment nous vivons, les idées que nous avons, les choses que nous croyons doivent avoir un impact sur nos vies, sur nos comportements, sur comment nous sommes. Et on peut voir dans le monde qu'il y a plein d'idées qui impactent les gens et qui ont un effet sur la manière dont les gens vivent. Les hommes fonctionnent de cette manière-là. Il y a des idées qui viennent, qui rentrent dans notre tête, qui prennent place et qui conditionnent nos réactions, qui vont conditionner notre manière de fonctionner, qui vont conditionner comment on vit. Si on a très peur des étrangers, à l'heure actuelle, c'est un fait de société. Les gens qui sont différents de nous nous font peur et ça va conditionner nos réactions. Ça va conditionner notre manière de réagir. Si on laisse cette idée que les étrangers sont dangereux et que c'est cette idée qui pour beaucoup de nos contemporains, quand on voit les médias, etc., est une idée qui flotte, qui traîne et qui nous reste en tête tout le temps, ça affecte notre manière de fonctionner. Et Jésus veut que nous prenions du temps dans la parole pour méditer et pour que ces idées de sa parole viennent affecter nos vies et nos comportements. Dans Romains 5, 8, il est dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans notre texte, il est dit que lui, le juste, il veut conduire des injustes à Dieu. Il veut conduire des gens qui ne sont pas dignes d'aller à Dieu, il veut les amener à Dieu. On sait que la parole nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Éphésiens 2:18 dit « À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » C'est génial. Jésus a ouvert la porte. Il y avait une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. Il y avait une porte que l'homme ne pouvait pas casser. Il y avait quelque chose qui était... Il y avait un abîme qu'on ne pouvait pas traverser. Toutes les images que vous voulez. On était devant une situation impossible et qui nous condamnait. Et Jésus a tout fait. Jésus a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Il veut que nous prenions cette réalité et que nous la fassions nôtre. Et Pierre, il écrit ces choses parce qu'il veut encourager les gens. Il veut leur dire, écoutez, c'est peut-être pas rose, les choses ne vont peut-être pas bien, mais quand vous vous remettez dans le contexte, alléluia, Jésus m'a sauvé. Ça doit être notre joie. Pierre l'a déjà dit dans des enseignements, les chrétiens devraient être les gens les plus heureux du monde. Pas parce qu'ils ont le plus d'argent ou les meilleures circonstances ou que tout va bien, mais parce que c'est fini, c'est fait. On a acquis la chose qui importe le plus, le salut vis-à-vis de Dieu, la paix vis-à-vis de Dieu. Si notre vision du monde est que, si vous croyez que Dieu a créé l'homme, l'univers, et que l'homme est tombé à cause du péché, si vous croyez vraiment ces choses-là, alors Jésus, sa mort, sa résurrection sont la meilleure chose, la meilleure nouvelle, la culmination, le point d'orgue de toute l'histoire humaine et devrait nous réjouir. Dans certains commentaires, il y avait des petits passages que je trouvais intéressants. Il y en avait un qui disait « Pierre montre que les chrétiens qui souffrent à cause de leur foi doivent trouver un encouragement dans le fait que Christ a aussi souffert et qu'il est mort, mais par sa mort et sa résurrection, il a gagné une victoire éclatante sur les forces du mal, une victoire à laquelle les chrétiens ont part grâce à leur union avec le Christ. Le Christ, qui a passé par la souffrance et la mort, puis par la résurrection, est le grand vainqueur dont le règne s'étend à toutes les sphères de la création. C'est en se tournant vers son Seigneur que l'Église trouvera la force de vivre, de souffrir et de témoigner dans l'espérance. » Jésus veut nous rendre aussi à la vie. Il est dit que lui a été rendu à la vie par l'Esprit et il veut aussi nous rendre cette vie. Si vous sentez, si vous sentez le, je sais pas vous si ça vous arrive de sentir entre guillemets la mort, de vous dire la mort guette, de vous dire le mal est là, de vous dire il y a quelque chose d'inéluctable. Les impôts et la mort. Une citation célèbre. Mais si on ne s'attarde pas sur ces réalités, le désespoir peut arriver vite. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous soyons vivant, que nous soyons pleins de joie, que nous soyons pleins de paix. Verset 19, c'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Dans un des commentaires que je lisais pour essayer de préparer, la personne disait que ce passage-là était un des plus difficiles à comprendre dans la Bible. Donc, humblement, ce matin, je vais vous proposer deux hypothèses. Il y a des tomes de théologiens entiers qui portent sur ces choses et c'est des versets qu'on doit aborder avec humilité et sur lesquels il ne faut pas trop s'attarder, simplement parce que Dieu n'a pas jugé bon de nous révéler toutes les choses dans sa parole et qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'il nous manque des pièces du puzzle, on ne sait pas exactement. Ici, cette idée, donc il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Quand on a étudié la Genèse ici dans le cadre de l'étude de la Bible en 24 heures, on avait parlé d'une idée dans la Genèse 6. Il est mention des fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles et qu'il y a eu des enfants et les théologiens pensent qu'éventuellement il y avait une sorte il y avait des anges déchus qui était descendu et qui avait eu des enfants avec les, les, les hommes, les femmes. Et donc il y a une hypothèse qui est de dire qu'éventuellement, ces anges déchus, Dieu les a emprisonnés et donc après sa mort, quand il a été rendu à la vie par l'Esprit, il est allé faire un petit peu une condamnation. Ici, l'idée de proclamation, on pense que c'est pas l'idée de, il est pas allé enseigner l'Évangile, c'est plutôt l'idée que on va le voir après dans un des versets qui suit, mais cette idée que l'histoire est un petit peu divisée en deux, il y a l'avant Jésus et l'après Jésus. Et il y a l'idée que peut-être que tout ce qui s'est passé avant, on sait que l'Ancien Testament, les saints dans l'Ancien Testament, ceux dont la Bible nous dit qu'ils ont été justifiés par la foi, ils croyaient en quelque chose qui allait venir et pas quelque chose qui était déjà là. Et donc il y a peut-être cette idée que Jésus, quand c'est fait, quand ça en est fini, il retourne dire ça y est, ce que vous pensiez allait arriver, ce à quoi vous espériez est arrivé pour ceux qui étaient saints, mais pour ceux qui avaient désobéi et qui avaient été condamnés, il est allé leur dire bon, maintenant je finalise la condamnation, c'est effectivement la finalité de toute chose. Il y en a qui pensent éventuellement que ce serait des simplement des esprits d'hommes qui seraient emprisonnés. On va le regarder après dans le verset, dans le chapitre 4. En tout cas, ces choses, on ne sait pas exactement ce qu'elles veulent dire. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a une figure de l'autorité de Jésus et du fait qu'une fois qu'il a accompli son travail à la croix, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Dans Philippiens 2:9, il est dit c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on ne sait pas exactement, il y a cette idée de sous la terre, on va voir dans le chapitre 4, mais il y a cette idée que Jésus règne sur tout, et face à des versets comme ça où on ne comprend pas les détails parce qu'il y a des choses qui nous manquent, on peut simplement passer et faire confiance que la parole est exacte et qu'on comprendra un jour. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Puis verset 21, c'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc il nous dit que les 8 sauvés, que Noé et sa famille qui ont été sauvés dans l'arche à travers les eaux du déluge, c'est une image, c'était une figure, quelque chose qui nous donne l'idée du baptême. On n'est pas sauvé par un baptême physique, il nous dit, c'est pas le baptême, c'est pas le fait d'être baptisé dans l'eau qui nous sauve, comme il le dit là, ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême nous sauve parce qu'il y a une réalité spirituelle qui est associée. Surtout à l'époque où Pierre nous écrit, quand les gens venaient à Jésus, ils étaient tout de suite baptisés. Dans son esprit et dans l'esprit des anciens croyants à l'époque, dans les premières années de l'Église, quelqu'un venait à Jésus et il le baptisait. C'était du tac au tac. Donc dans leur esprit, c'était toujours le symbole, le baptême, c'était le symbole d'une réalité spirituelle qui avait eu lieu. C'est notre conscience. Une bonne conscience envers Dieu. Le fait qu'on est en paix vis-à-vis de Dieu. Et on peut être en paix et avoir cette bonne conscience vis-à-vis de Dieu grâce au travail de Jésus, grâce à sa résurrection. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer. Cette image du déluge, c'est l'image d'un monde ancien et corrompu qui est nettoyé pour donner quelque chose de nouveau. Quand on demande le baptême physique, l'idée c'est d'accepter le jugement de Dieu sur notre vie passée, dire que notre vie passée n'était pas bonne. Dans le début de 1 Pierre, il parle de la vaine manière de penser héritée de nos pères. C'est on est en accord avec Jésus, on dit « Oui, ma vie passée était mauvaise, et je veux l'enlever et être dans quelque chose de nouveau. » Vous pouvez lire Romains, si ça vous intéresse, de Romains 5 à 7. Il y a plein de choses qui sont parallèles à notre passage aujourd'hui. Je ne vais pas prendre le temps de lire tout le passage, mais il y a cette idée que on symboliquement, on s'associe à la mort de Jésus. Il y a une sorte de mort symbolique où on dit notre vie passée, ce qui n'était pas bon, est mort et je passe à quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, c'est la résurrection de Jésus qui nous donne tout. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a fini le travail. On doit accepter cette réalité, on ne doit pas faire d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas obéir, encore une fois, on va le voir. Verset 22. Qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Là aussi, cette idée d'autorité et de supériorité de Jésus, qui est monté au ciel, qui a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et qui se trouve à la droite de Dieu. Il est glorifié. Sa souffrance a amené une grande gloire et a amené une grande bénédiction pour nous. On a vu avec Pierre, dans 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. » La Bible, il y a deux choses. Il y a le salut, et après notre obéissance et notre service rendu à Jésus nous amène quelque chose de plus. C'est parfois j'ai du mal à saisir cette idée, mais je vais essayer de vous la communiquer simplement. C'est notre comportement, notre obéissance, notre travail pour Dieu va nous amener une récompense au ciel. Ça doit faire partie de notre motivation. Et la Bible nous enseigne qu'à la fin, cette récompense qu'on aura reçue, ce ne sera pas quelque chose qu'on va garder égoïstement au ciel, mais on va pouvoir la réoffrir à Jésus en louange. Et il y a des versets qui parlent de cette idée-là, qu'il y a quand même une récompense ou des bénédictions, des bénéfices, des choses à aller chercher. On est sauvé et c'est pas maintenant je suis sauvé, je m'arrête. Non, c'est il y a l'idée que qu'on peut plaire à Jésus, on peut lui obéir et par ça on peut obtenir du bonus, du rab. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. » Donc il y a l'idée qu'on sera sauvé, mais qu'il y aura la possibilité d'avoir quelque chose en plus. Ce qui est déjà assez incroyable de se dire qu'on peut gagner encore quelque chose. La Bible s'arrête pas simplement à nous sauver. La Bible, Dieu est extravagant. Il va toujours au-delà. Il nous donne pas juste ce qu'il nous faut. Il nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il nous faut. Il a pourvu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce dont nous avions besoin. Il nous a sauvés, mais il donne d'autres choses en plus. Dans le passage avec Paul, là, l'idée, c'est pas l'ouvrier qui va être testé au feu, c'est son œuvre. Il va là, et ça va révéler la nature et si c'est quelque chose qui plaît à Dieu, si c'est quelque chose qui est bon. Verset 1 du chapitre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Nous devons nous armer de la même pensée. Quelle est la pensée? C'est la pensée que je veux suivre la volonté de Dieu. Même si ça veut dire souffrir, même si ça veut dire endurer des choses difficiles, même si ça veut dire être persécuté, Jésus, son exemple, nous enseigne qu'il a la pensée, c'était de dire, je veux faire la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous devons être engagés envers Dieu pour endurer, malgré les épreuves, malgré les tentations. On a dit que la souffrance et les épreuves qu'ont subi Jésus ont donné la possibilité du salut, ont ouvert la porte, ont amené un bien fou. Et si on veut aussi, Jésus nous a montré la puissance de l'obéissance à Dieu dans la souffrance. Et c'est un exemple qui est moins agréable sur lequel il est moins agréable de rester et de méditer. Mais cette idée que Jésus veut que nous suivions son exemple, qui était de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, même s'il devait souffrir. Et l'exemple, et cet exemple, c'est de faire ça parce que si nous faisons ça, si nous croyons que Dieu est souverain, si nous croyons que Dieu récompense, si nous croyons que ce qui est dans la Bible est vrai, eh bien, par nos souffrances, par notre obéissance dans la souffrance, pas juste par des souffrances, mais par l'obéissance à la volonté de Dieu, nous aussi, nous pouvons amener le bien que Dieu veut aux gens autour de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Jésus a ouvert la porte, a réconcilié la possibilité d'aller à Dieu. Et Paul nous dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. En tant que croyant, on réconcilie les gens avec Dieu, on les ramène à Dieu grâce au travail de Jésus. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Ce n'est pas très clair de qui il s'agit, celui qui en a fini avec le péché. On se dit que nous, on a encore une lutte avec le péché, donc on se dit peut-être que ça ne s'applique pas à nous, peut-être qu'il s'agit de Jésus. Mais on devrait en avoir fini avec le péché, tout du moins la domination du péché, le fait de se soumettre volontairement à des péchés et se laisser dominer par des péchés n'est pas la volonté de Dieu. Jésus veut que nous ayons la victoire sur les péchés. Il comprend et nous comprenons que nous allons lutter avec les péchés jusqu'à notre mort. Et l'idée, c'est, je pense, simplement que, alors ici, quand il dit, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Dans un des commentaires, il y avait un monsieur qui disait que le fait de devoir souffrir sous l'hostilité du monde est un signe fiable que la grande rupture a eu lieu, que le pas a été fait pour sortir du monde et suivre le Christ. Quand nous souffrons physiquement pour Jésus, une persécution physique, ça change notre manière de voir les choses concernant le péché et la chair. Et je pense que l'idée ici, c'est que dans ces cas-là, on peut dire que le péché ne domine plus sur la vie de ces personnes-là. Nous n'avons peut-être pas eu à endurer des persécutions physiques, donc c'est peut-être difficile de parler de ces choses. Je devrais sans doute me référer aux gens qui sont persécutés physiquement pour commenter ces passages. Mais quand on est prêt à suivre Dieu et à faire sa volonté, et on est prêt à souffrir physiquement pour le faire, il y a quand même de fortes chances qu'on n'ait plus la même vision vis-à-vis du péché. On n'a plus envie de s'attarder sur les choses du monde. On n'a plus envie que notre communion avec Dieu soit cassée par nos péchés, soit mis en difficulté par nos mauvaises actions et nous pousse vraiment à laisser les péchés de côté. C'est un petit peu l'idée que Paul aime bien, c'est cette idée de soldat, cette idée que si on est vraiment dans la bataille, si on est vraiment un soldat actif dans la bataille, on n'a pas envie de se trimballer deux sacs de patates. Si vous êtes à courir et qu'il y a des balles qui fusent au-dessus de vos têtes et que vous êtes en plein milieu d'une bataille, vous voulez être léger et capable de bouger. Et l'idée du péché, c'est ça, c'est cette idée de quelque chose qui nous pèse, qui nous empêche de bien faire ce que Jésus veut. Nous devrions en avoir fini avec le péché dans le sens où nous devrions ne pas vouloir ces choses et nous devrions, par ce que Jésus a fait, avoir la victoire sur le péché. Ici aussi, vous pouvez aller regarder dans Romains 6, vraiment il y a des parallèles très forts et je vous invite à, après vos 15 minutes de lecture, si vous avez encore faim, vous pouvez lire Romains 5 à 7, ça vous donnera des choses à comparer. Verset 3, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Il dit, on a déjà suffisamment perdu de temps. On a déjà tous perdu suffisamment de temps avec le péché, avec le monde, et on devrait racheter le temps qui nous reste. Il parle de choses, désordre, débauche, convoitise, c'est des mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries, l'idolâtrie criminelle, c'était des choses, surtout si on se replace dans leur contexte, qui étaient très courantes et qui étaient liées à la fois à la vie sociale, à la vie civique et à la vie religieuse. Il y avait souvent un mélange des choses avec des fêtes païennes ou des louanges qui étaient rendues à certains dieux par certains actes. Et c'est de ces choses-là dont il parle quand il dit l'idolâtrie criminelle, les beuveries, les choses comme ça, mais si on traduit, on pourrait dire les désordres, la débauche, c'est l'idée de manque de sens moral, le manque d'une retenue, l'envie de d'être libre et de faire ce qu'on a envie de faire sans aucune sens de règles. Les convoitises, les mauvais désirs, on pourrait simplement dire c'est le désir pour ce qui est interdit. Ce qu'on ne devrait pas avoir. L'ivrognerie, c'est l'abus de vin et d'alcool. L'idée de les orgies, les beuveries, les fêtes liées avec trop d'alcool, trop d'abus, d'excès. On a envie d'un petit peu se perdre dans ces choses, perdre le contrôle et oublier. Et puis il y a l'idée de, dans les idolâtries criminelles, peut-être la louange accordée à de faux dieux. Peut-être aussi dans leur contexte et dans le nôtre, l'idée de l'argent, de l'avarice, de quelque chose d'un abus. Et toutes ces choses nous, nous sont familières parce que l'homme n'a pas beaucoup changé en 2000 ans et on est toujours dans un cas de figure où ces choses, peut-être, des fois, on dit, bon, peut-être les idolâtries criminelles, ça nous semble un peu bizarre, mais quand on prend le temps de regarder ce que ça voulait dire à l'époque et ce que ça implique vraiment pour nous, on comprend que c'est des péchés qui nous sont familiers. Les convoitises, les mauvais désirs, la débauche, le désordre, l'ivrognerie. C'est toujours des choses qui sont là, mais on a vu qu'on signifiait par le baptême qu'on disait la vie ancienne est mauvaise et on veut passer à quelque chose de nouveau. Et on doit racheter le temps qu'il nous reste. Paul dit dans Éphésiens 5, verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et dans Colossiens 4, 5, il dit encore « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » La sagesse, on va regarder après. Aussi, verset 4, « Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient ?» Les gens ne comprennent pas le changement de comportement qui est lié à la foi chrétienne et un vrai changement dans la vie d'un croyant. Il y a plusieurs idées qui me viennent quand je lisais ce passage et je dirais notre objectif, Dieu nous a dit on doit chercher à être en paix avec tous les hommes, mais il ne faut pas confondre ça avec l'idée de la bonne réputation. Jésus ne nous dit pas que notre objectif, ça doit être d'avoir une bonne réputation parmi les hommes. Ce n'est pas de s'assurer que les pouvoirs politiques ont une pensée positive concernant les évangéliques. C'est pas de se dire ah mais quand il souvent je me dis et j'ai cette tendance ah mais s'ils voyaient vraiment ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, s'ils comprenaient notre cœur, notre souci de faire le bien, alors ils seraient contents de nous, etc. Il y a pas mal de situations, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que notre réputation vis-à-vis de lui soit bonne. Et après, vis-à-vis des hommes, qu'importe. C'est cette idée que notre souhait, notre désir, c'est de faire sa volonté. Et si nous faisons sa volonté, la Bible nous enseigne que le monde qui ne croit pas à Dieu ne va pas nous aimer, ne va pas penser en bien de nous et va nous calomnier, va dire du mal de nous. Est-ce que les gens disent du mal de moi? Et je me pose cette question dans le sens où est-ce que mon comportement les pousse à voir que je me comporte différemment et qu'il y a quelque chose de différent et qu'à cause de ça, à cause de mon obéissance à Jésus, ça les pousse à dire du mal de moi. D'une certaine manière, c'est presque un gage de notre bonne conduite. Il y avait un prédicateur anglais, dont je me souviens plus le nom, qui allait de village en village, je crois que c'était au XVIIIe siècle, et qui était souvent persécuté dans les villages. Il allait, il prêchait, il se mettait sur, c'était à l'ancienne, il se mettait sur une boîte et puis il prêchait, il haranguait les foules dans les villages. Et il y avait un jour où il se promenait en cheval et il se disait, tiens, j'ai pas encore été persécuté, on m'a encore rien jeté aujourd'hui. Et donc il a prié à Dieu, Dieu, est-ce que je suis juste devant toi? Est-ce que je suis bien vis-à-vis de toi? Et là, quelqu'un lui a jeté une pierre et il a dit merci Jésus et il est parti dans son chemin, dans la paix. Alors c'est la caricature, mais l'idée c'est que si nous suivons et nous obéissons vraiment, ça va faire réagir les gens. Et pourquoi ça va faire réagir les gens? Parce que ça les énerve. Vous les connaissez ces gens-là? Vous avez déjà fait l'expérience, je vous le garantis. Non, non, pas des gens qui vous calomnient, mais des gens que vous calomniez. La personne, la sainte Nitouche, vous êtes en train de faire quelque chose et dit « Ah non, moi je fais pas ça. Oh, c'est énervant, non? Ces gens-là, vous avez envie de les taper un petit peu. Ouais, mais t'es une sainte nitouche, toi. Tu fais semblant. Tout de suite, on calomnie, en fait. C'est la réaction de notre chair. Cette idée qu'on voit les gens, leur bonne conduite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous condamne. Notre conscience est reprise. On sait qu'on est dans tort. Et comme quelqu'un qu'on aurait mis le pouce en dessous, ça nous fait gigoter. On a envie d'être libre. Notre conscience nous accuse à cause de la bonne conduite et ça nous énerve. Et le monde, les gens autour de nous, si nous nous conduisons vraiment comme Jésus le veut, si nous obéissons vraiment, leur conscience est accusée, leur conscience va les énerver. On va les énerver parce qu'ils vont savoir qu'ils sont en tort. Et la Bible parle de ça comme des charbons ardents qui sont mis sur leur tête. Ça les chauffe. C'est bon de se le rappeler aussi, si jamais vous êtes dans des situations où vous êtes découragé vis-à-vis du monde, ou vis-à-vis des gens, vis-à-vis de votre comportement chrétien, quand vous faites quelque chose et vous attendez à une réaction, et les gens sont énervés et vous calomnient, ça peut être décourageant, mais la Bible nous dit c'est normal. C'est comme ça que le monde fonctionne. Dans la vision du monde que la Bible enseigne, dans la manière de voir comment le monde fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme a une conscience, sait ce qui est juste et mal, parce que Dieu l'a mis dans son cœur, et quand ils ne font pas ce qui est bien, quand nous ne faisons pas ce qui est bien, notre conscience nous accuse. Et quand quelqu'un autour de nous fait le bien, ça nous condamne, ça nous accuse et ça nous énerve. Verset 5, ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Il y a des comptes à rendre à la fin. On a dit que Pierre veut communiquer la bonne perspective aux croyants qui subissent la persécution. Et l'idée, c'est que, un petit peu ce que disait Jésus, que c'est pas des hommes qu'il faut avoir peur. Les hommes, ils peuvent juste nous tuer physiquement. C'est de Dieu dont nous devrions avoir peur. C'est ça la sagesse. Pourquoi est-ce que Jésus a souffert? Pourquoi est-ce qu'il a été à la croix? Pourquoi est-ce que nous devrions faire les choses que nous étudions dans ce livre depuis quelques semaines? Pourquoi est-ce que nous devrions obéir? Parce que Dieu. Parce qu'à la fin, Dieu. Et ça, c'est la bonne perspective. La sagesse, j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est de prendre les bonnes décisions pour le résultat final. C'est de bien investir. C'est pas de faire une décision et d'avoir un retour immédiat, là, je fais ça et puis j'obtiens tout de suite ce que je veux. C'est l'idée que j'investis. Et l'idée d'investissement, il y a toujours une part d'incertitude dans le monde. Quand vous investissez dans une compagnie, si vous investissez dans les fonds, vous prenez votre argent, vous le mettez dans un livret A, vous vous dites ça va aller mieux, puis bon ça va moins bien. Il y a l'objectif final et la sagesse, c'est de se dire Dieu est là, et si j'investis en son sens, je vais avoir une récompense. Je le verrai peut-être pas, mais par la foi, je vais investir dans ce sens-là, et à la fin, je sais que je vais obtenir une couronne, que je vais obtenir une récompense dont on a parlé. Mon impression, c'est que dans notre monde actuel, nous sommes de plus en plus des gens malins et astucieux, mais avec l'idée de décision à court terme. On investit, on veut la politique, les sociétés, notre manière de nous comporter. Beaucoup d'entre nous dans notre société, c'est l'idée de retour rapide. Les investisseurs veulent un retour rapide sur l'investissement. Ils veulent que dans 2 ou 3 ou peut-être au grand maximum 5 ans, bah, ils aient doublé leur mise ou etc., etc. Il y a cette idée de... Et qu'importe ce que ça amène comme instabilité sociale, comme instabilité politique, comme problème dans le monde, on veut notre retour rapide. Est-ce qu'il y a des ouvriers pas chers quelque part? On va aller vite en profiter et faire de l'argent. Et puis quand les Quand les salaires vont monter un petit peu, ben on les vire et puis on va ailleurs et puis tant pis. La politique aussi, il faut du rapide, il faut des choses prévoir, se dire je vais faire un programme politique avec des objectifs pendant 50 ans, ça n'existe pas. Il faut un programme avec des résultats dans 3 ans pour que je puisse repartir en campagne dans 4 ans et être élu dans 5. C'est le retour rapide sur investissement. La finalité de l'objectif, c'est comme en France, on a cette balle de la sécurité sociale, des retraites. Ça fait 30 ans, même plus que 30 ans, j'en sais rien, j'étais pas là, que les politiciens se disent ce système ne marche pas sur le long terme. Il va arriver un jour où le système ne marche plus, en l'état actuel des choses. Mais c'est un projet avec des effets sur de long terme, etc. Donc je le passe au suivant. au suivant, etc. Et la sagesse, c'est d'investir avec l'objectif de la finalité de ce qui va arriver. Et la finalité de ce qui va arriver à l'homme, c'est qu'il va se tenir devant Dieu et il va être jugé. C'est ça la finalité de notre vie. Et si ça aussi, cette réalité est ancrée dans nos têtes, si quand nous nous comportons, quand nous prenons des décisions, quand nous nous conduisons dans la vie de tous les jours, nous nous disons « qu'est-ce que ça va amener ?» Si tous les jours je suis feignant et je fais rien, ou si tous les jours je regarde n'importe quoi, sauf la Bible, sauf des choses de Dieu, si je passe mon temps à réfléchir sur des choses tout sauf Dieu, il y a des finalités à la longue. On voit que souvent, les chutes des grands hommes de Dieu dans la Bible, les exemples qu'on a, des David, des choses comme ça, c'est des accumulations de petites décisions où il n'y a pas la finalité qui est en vue. C'est pour ça qu'on dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est cette idée qu'on a cette crainte, ce respect, cette compréhension que c'est Dieu qui règne et qui va nous juger à la fin. Verset 6. En effet, l'Évangile a été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc c'est le deuxième verset un petit peu délicat qui est l'objet de pas mal de, là aussi, d'écrits théologiens, etc. Il y en a qui pensent que peut-être que les morts, ce sont les chrétiens qui sont déjà morts à l'époque où Pierre parle, c'est peut-être ceux qui ont entendu l'Évangile et qui sont morts, et donc ils ont déjà entendu. Il y en a qui pensent éventuellement qu'il s'agit de ce qu'on appelle le Saint d'Abraham. Jésus, dans un petit passage dans Luc 16, verset 22, parle de l'homme riche et d'un pauvre Lazare qui meurt tous les deux. Et là, l'idée, et c'est un petit peu pour ça que je vous disais qu'on en parlerait par rapport à ce qu'il y avait avant, c'était que peut-être qu'avant Jésus, les théologiens parlent d'un enfer, on va dire, temporaire, qu'ils appelaient Hadès, où les morts qui attendaient pour être condamnés étaient mis, et il y avait le saint d'Abraham, où c'était les saints qui attendaient d'être justifiés par Jésus, étaient mis, et qu'il y avait donc une sorte d'attente, et ce serait peut-être ça, Jésus, quand il est mort, quand il a été rendu à la vie par l'Esprit, il a été les voir, il a condamné ceux qui étaient condamnés, et ceux qui étaient dans le saint d'Abraham ont été justifiés ou enlevés de ce lieu et amenés au ciel. Alors vous pouvez lire si ça vous intéresse, je peux vous passer des choses à lire et vous faire un avis. Ici, il ne s'agit pas d'une sorte de deuxième chance pour ceux qui sont morts, ce n'est pas ça dont il est question. La Bible est assez claire à ce sujet-là, ceux qui sont morts sont morts et leur vie et leurs décisions pendant leur vie et ce qui va conditionner le résultat final avec Jésus. Pour terminer, 1 Pierre 4, 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Et Matthieu 5, versets 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On a ces promesses et on doit suivre Jésus. On doit obéir. Pour terminer, je voulais lire une petite citation d'un certain Margot, qui était un traducteur de la Bible, qui a écrit certains commentaires, et qui, face à ce passage, écrivait « La fidélité pour l'Église consiste à être prête à suivre la même voie que celle où a marché son chef, que ses membres soient prêts à souffrir et à mourir eux aussi pour des injustes, afin de conduire par leur témoignage d'obéissance des hommes à Jésus-Christ et par lui à Dieu. Serait-ce trop présumé des forces de l'Église que de lui assigner une telle mission ? Non, car si elle trouve en Jésus-Christ un exemple, elle trouve encore en lui la puissance qui donne la victoire, cette puissance qui fait passer de la mort à la vie et celle de l'Esprit. Prions. Seigneur, ces choses sont difficiles pour moi à entendre parce que trop souvent je suis dans la désobéissance, Seigneur. Trop souvent, je ne fais pas ce que je sais, Seigneur. Et quand bien même j'envisage la possibilité de le faire, je me dis c'est trop dur. Seigneur, aide-moi et aide-nous à t'obéir, à nous appuyer sur toi, à être remplis de ton esprit, Seigneur, pour avoir la puissance qui est nécessaire pour pouvoir t'obéir. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, parce que sans toi, sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire de ce que tu demandes. Sans ton esprit et sans toi, nous ne pouvons pas avoir de travail, Seigneur, d'œuvre qui soit digne de récompense à la fin. Et Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons faire ta volonté. Merci pour ce passage ce matin, merci pour ces textes, merci pour ta mort et pour ta résurrection, Seigneur, merci pour ta venue, merci parce que tu as tout fait. Donne-nous ta joie, ta paix quand nous méditons sur ces choses. Aide-nous à vraiment passer du temps à réfléchir à ces réalités, qu'elles soient ancrées dans nos cœurs et dans nos vies et qu'elles affectent nos comportements, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci parce que tu as tout fait et parce que tu règnes et parce que tu nous aimes. En ton nom, nous prions. Amen.